Alors, commerce aujourd'hui, hein. Je vais vous prendre encore 10 minutes, peut-être. Hein. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de questions ou pas, mais... Le commerce aujourd'hui, avec deux points, un monde fragmenté, puis une question sur la fin de la mondialisation, qui n'est pas vraie, évidemment. Mais... Alors, si on veut faire un constat de la mondialisation, grosso modo, ce qu'on sait aujourd'hui... Hein, si j'allume ma radio, j'entends mondialisation, il n'y a plus de frontières, vraiment Internet, ici, ailleurs, c'est pareil, c'est le village global, tout le monde est pareil, tout est uniformisé, les entreprises sont globales, etc. Ouais, donc on a tout un tas de gens, hein, Papa Idiot, hein, qui nous explique que la Terre est devenue plate, temps, c'est plus de différence, le monde est totalement homogénéisé, parce que les firmes multinationales, parce qu'Internet, etc. La distance est morte, plus de distance, ça compte plus. Bon, moi, en tant qu'économiste, je regarde les données, et notamment des données de commerce, et non, les données les plus simples vous montrent que la distance n'est pas morte, la distance est extrêmement importante encore aujourd'hui, ce qui laisse entendre que la mondialisation, elle n'est pas si forte que ça, en réalité. C'est évidemment colossal par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est pas, et c'est effectivement structurant dans les économies de tous les pays du monde, mais pour les individus, c'est pas directement, c'est pas si colossal que ça. Donc il est clair que les frontières, ça existe encore. Hein. Ça, c'est les États-Unis, hein, le Texas, ça, c'est le Mexique. Ça, c'est la frontière. Donc, il se passe des trucs autour des frontières. Hein. C'est pas totalement neutre. Et là, on est dans une zone de libre-échange. Donc, il se passe des trucs autour des frontières. Mais au-delà de ces exemples amusants, on sait, hein, que la distance géographique pèse très fortement sur les échanges commerciaux. Et distance géographique et distance culturelle. Ici, ce qu'on a, c'est les exportations de la France en direction de tout un tas de pays du monde. Donc, chaque point, c'est un pays du monde. Pondéré par le PIB du pays. Hein. Évidemment, les grands pays, on exporte plus vers les grands pays que vers les petits. C'est en contrôle du PIB. Et on a ici la distance à la France. Donc en gros, hein, ici, on a la Belgique, l'Allemagne, etc. Et puis là, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Tonga, tout ce que vous voulez. Bon, très clairement, hein, on a une relation négative, très nette. On commerce beaucoup, beaucoup plus avec nos voisins qu'avec les pays lointains. Si on regarde les pays francophones, c'est les ronds, et puis les anciennes colonies françaises, c'est les diamants. Eh bien, on voit qu'en grosso modo, l'essentiel des ronds et des diamants, hein, se retrouve en haut. C'est-à-dire qu'en plus, on commerce beaucoup, beaucoup plus avec des pays avec lesquels on a une proximité culturelle, linguistique, sociale, etc. Pareil pour les imports. Donc, la géographie, on commerce pas n'importe comment, avec n'importe qui, etc. Ça fait longtemps, mais je n'arrive jamais à la retrouver. Je l'ai pas retrouvée. Mais il y avait une publicité. Donc c'était pas à Saint-Étienne, c'était à Clermont-Ferrand. Une publicité pour IBM il y a quelques années où il y avait un conseil d'administration japonais. C'est pas en japonais. C'était un truc un peu raciste. C'était bien comme publicité. Une publicité où on voyait des Japonais là qui parlaient japonais, puis c'était sous-titré. Et ils étaient excités, comme tout bon raciste représente des Japonais, en disant « Oh, ça y est, j'ai trouvé un nouveau fournisseur, il est beaucoup moins cher que les autres, etc. Ah, oh, magnifique hein. !» Tous les gens en costume noir, là, ils étaient très contents. Et il dit « Mais alors, qui c'est ce nouveau fournisseur ?» Et alors, le gars, il regarde son petit papier, il dit « C'est Marcel » ou un truc comme ça. Et on voit de l'autre côté Marcel avec un bleu de travail. C'est aussi socialement raciste régionalement raciste parce que c'est Marcel, fabricant de durite à Clermont-Ferrand en l'occurrence. Donc le gars qui a une toute petite PME hein, qui visiblement parle, vu son physique, on nous laisse entendre qu'il parlait pas anglais, imaginons pas japonais, qui n'avait jamais sorti de Clermont-Ferrand, il trouvait des clients au Japon comme ça. Parce que c'est IBM, grâce à IBM, Internet, etc. Non, c'est pas vrai. D'accord ? C'est pas vrai. En réalité, Marcel, il exporte pas. S'il exporte, c'est vers la Belgique et encore. D'accord ? Parce que ça, c'est pas possible. Exporter loin, c'est très, très difficile. Exporter vers des pays qui parlent pas français, c'est très, très difficile. D'accord ? Le commerce, il ne se fait pas au hasard, n'importe comment, n'importe où. Il se fait selon des relations de réseau qui sont très, très structurées. Ça, c'est la même chose pour les services. Alors, on se dit, les services, vous vendez un service d'architecte. Voilà, si Jean Nouvel fait un bâtiment, en fait, il vient jamais. Hein. Il vous envoie des emails. En fait, ses assistants lui envoient des emails, mais personne ne se déplace hein, pour envoyer des services comme ça. La distance, ça compte pas. Hein, si on envoie tout par Internet, bon, en fait, si la distance, ça compte beaucoup, et on commerce beaucoup plus des services avec les pays voisins qu'avec les pays loin. Et puis, mieux encore, le graphique est compliqué, donc je vous le mets pour illustrer, mais je ne vais pas vous expliquer comment il fonctionne. Plus encore, l'effet de la distance tend à augmenter dans le temps. C'est beaucoup plus important, c'est un peu plus important aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire, un kilomètre de plus réduit la probabilité de commercer avec un pays voisin, ou 1000 kilomètres de plus réduit la probabilité de commercer avec un pays, ou les quantités échangées. Et cet effet-là, il est plus fort aujourd'hui qu'il n'était il y a 50 ans. D'accord ? Donc, pourquoi ? On commerce plus facilement avec tout le monde, mais encore plus facilement avec nos voisins. Donc le commerce, il est quand même très, 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 très régional. Et puis, il y a beaucoup d'entraves au commerce qui persistent. Et donc, finalement, exporter, c'est très difficile. Ça, c'est des données françaises. Alors, mes graphiques datent un peu. Il faudrait que je les refasse. Hein. Donc, on peut avoir les données des douanes qui nous donnent un truc merveilleux, c'est des millions d'observations. Donc, l'économiste, il est comme un dingue. C'est pour ça que mon ordinateur, il doit travailler pendant que je vous parle, parce que c'est long à processer toutes ces données. Et donc, on peut savoir quelle entreprise française exporte, quel produit, vers quel pays, à quel prix, etc., tous les ans. Et donc, ça, c'est le nombre d'exportateurs en France. Donc, on est à peu près 100 000, 110 000 exportateurs en France. D'accord ? 4 millions d'entreprises, 100 000 exportateurs. Pour les services, c'est encore moins, c'est 10 fois moins. En gros, si je regarde là, c'est le pourcentage de firmes exportatrices dans la population des entreprises. J'ai en gros 20% des entreprises françaises qui exportent, les autres elles exportent pas. Okay. Les entreprises manufacturières, hein, parce qu'évidemment ma boulangère c'est une entreprise, mais elle exporte pas. Bon. Pas vocation à ça. Mais une entreprise manufacturière qui produit des biens qui sont a priori échangeables, en fait, elle ne les exporte pas. Donc, oui, Marcel, avec sa PME à Clermont, il n'exporte pas. Statistiquement, il exporte pas. Quand on regarde les entreprises qui exportent, c'est-à-dire, vous prenez les 100% des entreprises manufacturières en France, pour elle, la mondialisation, c'est n'exporte pas. Il reste 20%. Parmi ces 20%, vous regardez qui c'est ou ce qu'elles font. Et là, vous avez 45% des entreprises qui exportent, françaises, qui exportent vers un pays. Oh, plus 15% qui exportent vers deux pays. Donc une immense majorité des entreprises qui n'exportent que vers un ou deux pays. Donc 80% n'exportent pas, 20% exportent. Parmi ces 20%, il y a la moitié qui n'exporte que vers un ou deux pays. Donc celles qui commencent à exporter vers 3, 4, 5 pays, oh, ça c'est très petit, 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 petit. Ce qui veut dire que c'est difficile, évidemment. Moi, je fabrique des carrelages. Si j'ai des clients à Tokyo, moi, je les vends à Tokyo. Sauf que non, parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Je ne fais pas. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le commerce international est très granulaire. Très granulaire, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y a des gros acteurs qui pèsent énormément. Ici, le graphique est en échelle logarithmique, donc c'est un peu compliqué à comprendre, et puis c'est des parts cumulées, donc c'est un peu compliqué. Mais là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que 1% des exportateurs français réalisent 68% des exportations françaises. 100 000 exportateurs, 1%, ça fait 1000 exportateurs, ça fait 70% des exports. Vous dites, le commerce se porte mal, peut-être que c'est la faute aux 35 heures, on n'est pas assez compétitif, il faut redynamiser les PME. Les PME, elles n'exportent pas. Hein, on peut les redynamiser tant qu'on veut. Ben, même si elles doublent leurs exports, c'est sympathique, mais ce n'est pas ça. Peut-être que c'est la faute aux 35 heures. Peut-être que si les exports ont un petit coup de mou cette année, peut-être que c'est Airbus qui a raté une commande. Hein. Peut-être que le commercial, il a pas été bon. Peut-être que c'est Renault qui a fait un modèle qui est moche. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique nationale, ça n'a pas grand-chose à voir avec la macroéconomie, ça n'a pas grand-chose à voir avec les avantages comparatifs, ça n'a pas grand-chose à voir avec rien, à part la vie des entreprises. Au bout d'un moment, quand vous avez des grosses entreprises qui comptent autant que ça, leurs événements personnels, c'est beaucoup. En France, hein, c'est un grand pays, hein, un petit pays. Nokia a représenté plus de 15% du PIB finlandais à sa grande époque. Bah, quand Nokia croule, bah, ça fait comme un petit trou d'air dans le PIB, dans le PIB finlandais. Pareil pour Samsung en Corée, c'est devenu une entreprise tellement grosse qu'elle réalise une part significative du PIB du pays. Et parlons pas des exports. Alors, est-ce que c'est la fin de la mondialisation ? Deuxième point, il faut que je me dépêche, c'est pour le coup. En 2009, il se passe un truc extraordinaire, là, tout le monde était excité. Le commerce s'est effondré. En 2009, c'est la crise. Donc ici, on a le taux de croissance annuel, le year-to-year growth rate, en fonction de pays, 2000, 2002, 2004, 2001. Okay. C'est des données mensuelles, vraisemblablement. Trimestrielles, je pense. Et donc ça, c'est le PIB, en bleu. Et en gris, c'est le commerce. Et donc, on a une chute du PIB mondial, c'est la crise de 2009. Bon, très bien. Ce qui a étonné les gens, c'est que le commerce mondial a surréagi. Et vraiment, il s'est écroulé beaucoup plus fort que le PIB. Alors après, il a remonté un petit peu, hein, donc il a rattrapé plus fort. Mais il se passe quelque chose ici qui est encore plus intéressant et qu'on voit mieux sur ce graphique-là. Ici, c'est le taux de croissance d'une année à l'autre. Du PIB en bleu et du commerce de biens en rouge. Et ce qu'on voit ici, hein, c'est que ces deux dernières années, on n'a pas les données de 2014 encore, ces deux dernières années, le commerce a cru moins vite que le PIB. Ça veut dire que la mondialisation diminue. La mondialisation, c'est que on commerce plus, et donc plus que le PIB. Tout augmente, mais le commerce augmente encore plus vite que le tout. Ici, le commerce commence à augmenter moins vite. Et donc, on a une espèce de plafonnement des échanges. Et alors ça passionne les gens. On se demande bien pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'on a un retour du protectionnisme. Bon, en fait, non. Peut-être que pendant la crise, on a eu un assèchement des financements du commerce pour exporter. Les entreprises ont besoin de sources de financement spécifiques. Bon, en fait, non. Hein. On a les études qui ont regardé ça. Peut-être qu'on a un ajustement des prix, les prix des biens échangeables qui sont commercés, parce que comme c'est la crise, tout le monde est un peu tendu sur les marchés, les gens essayent de placer leurs produits, donc il y a plus de concurrence, et quand c'est international, ben les prix chutent. Bon. Peut-être qu'il y a... Donc ça, on a un peu de ça, puis des effets de composition. Quand c'est la crise, les gens achètent des voitures moins chères, et donc des voitures de moins de bonne qualité, mais moins chères, et donc ça fait réduire la valeur du commerce. Donc il y a un peu de ça, ça c'est vrai. On a une contraction des biens d'équipement, on est en perte de croissance molle, les entreprises investissent peu, les ménages investissent peu, on commence moins de biens d'équipement. Et donc moins de biens d'équipement, les biens d'équipement sont des biens qui sont typiquement très échangés et qui participent beaucoup aux chaînes de valeur, hein, parce que, à la division des chaînes de valeur, parce que c'est des biens complexes. Et donc ça, oui, ça joue pas mal. Et puis donc on a Et donc effectivement, la fragmentation du commerce tend à se freiner dans les données récentes. Ici, c'est le même graphique que tout à l'heure. C'est la croissance du commerce mondial, de tous les biens. Et en bleu, en rouge, c'est des biens qui participent très intensément à la division des chaînes de valeur. Donc, ils ont des chaînes de valeur très fragmentées. Et ceux-là, sur les périodes récentes, eh bien... ou une croissance plus faible. Donc il y a une progression moindre hein, de la division internationale du travail. Ça, je passe. Pourquoi ? Parce que ce qui a tiré les chaînes de valeur, c'est deux choses. La division des chaînes de valeur internationales, c'est deux choses. d'une part, une plus grande facilité à commercer. Donc, il y a un abaissement des protections commerciales, des coûts de transport, etc. Et ça, ça finit... voilà, on touche à la fin. Dans votre présentation, en introduction, vous parliez de protection commerciale, de droits de douane, de négociation de l'OMC. Moi, je suis du commerce international. Droits de douane, ça n'existe pas. D'accord, c'est fini. Il n'y en a plus. Oh, si on cherche, on en trouve dans l'agriculture, le textile, mais... Vraiment, en gros, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Il y a plein de barrières aux échanges, mais plus des droits de douane. Et donc, les barrières qui restent sont des barrières qui sont compliquées à enlever et qui sont un vrai sujet. Mais baisser les droits de douane, c'était facile et on ne le fait plus. C'est pour ça que l'OMC ne fait plus rien, négocie plus rien, parce qu'il savait négocier des choses assez simples, la réduction des droits de douane, et ils ont fini leur boulot, en fait. C'est pas un échec de l'OMC, hein, c'est juste un total succès. Ils ont fini par éradiquer leur truc. Et maintenant, ils ont du mal à trouver, à rebondir pour aller chercher d'autres réductions de coûts du commerce. Donc, on ne peut plus tellement faciliter la fragmentation. Et d'autre part, la fragmentation reposait sur les avantages comparatifs. Mais les avantages comparatifs, pour le coup, c'est un truc qui a tendance, en tout cas, fondé sur les bas salaires ou sur les différences de salaire ou de coûts de production. C'est quelque chose qui a tendance à s'user quand on les utilise. Les pays s'insèrent dans les chaînes de valeur mondiales en profitant de leurs bas salaires. Et puis, ils gagnent de l'argent. Ils sont là pour ça, sinon ils ne le feraient pas. Comme ils gagnent de l'argent, ils deviennent riches. Comme ils deviennent riches, ils vont plus à l'école. Donc ils augmentent leur niveau de technologie. Ils augmentent leur salaire. Et en fait, ils n'ont plus d'avantages comparatifs. Donc la convergence des niveaux de vie entre le monde en développement et le monde développé ancien, le rattrapage des pays émergents, fait qu'il y a moins d'avantages comparatifs à exploiter. La prochaine ressource sera peut-être l'Afrique, mais qui reste encore un peu trop instable pour aller vraiment chercher ces ressources-là en termes de main-d'œuvre. Et donc, il y a des gens qui relocalisent qui fragmentent moins leur chaîne de valeur, parce que finalement, fabriquer en Chine, c'est loin, c'est pas très réactif, c'est loin, il faut prendre le bateau. Et puis, c'est de moins en moins rentable, parce que les Chinois ont des salaires de plus en plus élevés. Et donc on a l'argument des avantages comparatifs qui reste très pertinent, mais qui devient de moins en moins puissant au fur et à mesure que les avantages comparatifs tendent à s'estomper. Voilà, je m'arrête là. J'ai encore d'autres choses à dire, mais ça va bien, je pense, pour vous comme pour moi. Et donc j'attends vos questions si vous en avez, et je vous remercie.
Juste pour répéter une question d'élève, vous avez eu l'air de dire que la désindustrialisation de la France, c'est pas lié à la mondialisation. La façon dont vous l'avez dit, on n'a plus comprendre ça. Alors, y a-t-il la désindustrialisation de la France? Est-ce que c'est pas lié à la mondialisation?
Alors, j'ai pas dit ça. mais je le pense un peu. Donc ça va. On a fait des calculs, hein. pas moi, mais les gens... Donc, la désindustrialisation de la France, donc si on regarde l'emploi industriel en France, depuis les années 80, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ça descend comme ça. Alors, pour vous, ça descend comme ça. Mais hyper régulier. Hein. C'est flippant. Quand on regarde dans tout un tas d'autres pays, sauf l'Allemagne, aux États-Unis, c'est comme ça. Encore pire, au Japon, hein. L'Italie, c'est comme ça. Alors du coup, on se sent un peu plus rassuré, parce que quand on a une bonne régularité, on se dit qu'il y a un truc un peu normal. Les gens ont fait des calculs. Il y a peut-être 20-30% c'est une étude du Trésor qui a fait ça, qui est assez sérieuse, 20-30% des pertes d'emplois dans l'industrie qui est directement liée au commerce international. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Vous perdez des emplois industriels. Pourquoi ? L'essentiel de cette affaire-là, c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est que vous gagnez en productivité. Si on regarde la production industrielle dans le PIB, en valeur, ça diminue. Si on regarde en volume, c'est-à-dire on enlève les prix, c'est constant. En gros, on fabrique toujours autant de voitures, d'accord, mais de moins en moins chères. Donc elle pèse de moins en moins cher dans le PIB. Par contre, ce qui va augmenter sa part dans le PIB, c'est tout le reste, et notamment les services. Les gains de productivité dans les services sont beaucoup plus faibles que les gains de productivité dans l'industrie, et c'est ce qu'on connaît depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle la maladie de Baumol, du nom de Baumol, l'économiste. Si vous avez un secteur qui a des forts gains de productivité et l'autre qui a des petits gains de productivité, eh bien, ma foi, les forts gains de productivité dans le secteur qui croît vite fait chuter les prix, et on peut produire toujours autant, moins cher, et donc on a moins besoin de gens pour le produire, et donc sa part dans le PIB diminue, sa part dans l'emploi diminue. Donc, il y a une bonne partie de la désindustrialisation qui est juste une maladie de pays riches, qui est que, on produit beaucoup moins, on emploie beaucoup moins, on a perdu énormément d'emplois dans l'automobile, en bonne partie parce qu'on les produit beaucoup, 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 beaucoup mieux.
Et l'Allemagne ?
L'Allemagne a un truc un peu différent. L'Allemagne est un pays hyper industriel. Et donc, un pays hyper industriel et hyper commerçant. C'est-à-dire que si vous faites n'importe quel graphique avec l'Allemagne, vous allez se promener là, vous avez un nuage de points quelque part, puis il y a l'Allemagne qui est là. Donc c'est un pays qui a juste un business model très spécial. Mais par contre, l'Allemagne n'est pas très bon dans les services, hein. La France, pour le coup, se compare aux États-Unis, hein, donc pas en termes de croissance, pas en termes de PIB par habitant, etc. Mais l'Allemagne se compare à rien. Dans les pays riches, c'est juste devenu quelque chose d'extrêmement bizarre, et c'est très récent. Hein, c'est vraiment les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je sais pas.
Le lien entre les deux?
Le lien entre eux?
Désindustrialisation de l'Europe du Sud, désindustrialisation de l'Europe du Nord.
L'Allemagne, les voitures allemandes sont pas allemandes. Hein. Les voitures allemandes sont polonaises. D'accord ? Le design, comme mon iPhone, il est californien, mais en fait non, il est chinois, mais en fait non, il n'est pas vraiment chinois. Parce qu'il est aussi coréen, il est aussi japonais, il est aussi français. Et les voitures allemandes sont très comme ça. Donc l'Allemagne, l'industrie allemande a énormément joué de la fragmentation des chaînes de valeur, notamment avec les pays d'Europe centrale, etc. Et donc, l'Allemagne a peut-être désindustrialisé les pays du Sud. L'Allemagne a aussi beaucoup industrialisé les pays de l'Est, puisque le savoir-faire allemand, la technologie allemande, la puissance commerciale allemande a tiré les sous-traitants des pays de l'Est. Et donc, c'est un peu compliqué. Ce que fait l'Allemagne, en revanche, c'est... je sors de mon domaine, c'est une question de macroéconomie. L'Allemagne, en étant un hyper-exportateur... créer des surplus commerciaux qui sont anormaux, en termes économiques, mais anormaux par rapport au reste de la zone euro. Et donc en fait, l'Allemagne, en étant un hyper exportateur, empêche la zone euro dans sa globalité d'avoir des déficits commerciaux, et donc la zone euro dans sa totalité de dévaluer l'euro. Et donc ça a désindustrialisé. C'est le truc, c'est... on a l'euro de l'Allemagne, et l'euro de l'Allemagne... ne peut pas satisfaire la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, parce qu'eux, ils auraient besoin d'un euro des pays du Sud. Donc, dans les questions, est-ce qu'il faut sortir la Grèce de la zone euro ? La vraie logique, c'est on regarde les données, il faut sortir l'Allemagne de la zone euro. D'accord ? C'est le point. Et ça désindustrialise.
Bien, je vais me redonner la parole parce qu'on va être obligé de conclure.